don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的
母亲南家都忙着忙着
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clémence Alézard, Tiffaine de Rocchini, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Léa Le Foll. On poursuit notre série consacrée aux villes qui se meurent. Nous parlions lundi de Homs, de Kobané, de Sarajevo, de ces villes martyrs. Nous parlions hier des villes face au déclin économique. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux villes fantômes. On va parler de ces zones désertées, de ces villes abandonnées alors que rien ne les y préparait. Ce sont des villes densément peuplées et soudainement frappées par des catastrophes industrielles, naturelles, humaines. Alors l'un des exemples emblématiques et peut-être le plus récent est sans doute celui de ces centres urbains devenus des villes fantômes suite à l'accident nucléaire qui a touché la région de Fukushima.
Depuis la nuit dernière, les survivants sont évacués.
Nous avons décidé de relever provisoirement l'accident de Fukushima au niveau 7, comme celui de la catastrophe de Tchernobyl, même si les émissions de particules radioactives ne représentent qu'un dixième de celles de Tchernobyl.
La zone d'évacuation de 20 km autour de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima devient zone interdite. Les autorités organiseraient de brèves visites pour les 80 000 personnes qui vivaient dans la zone, ce qui permettra à ces dernières de retourner chez elles pendant environ 2 heures afin de récupérer des articles de première nécessité.
L'endroit où je travaille pourrait être contaminé. Donc je viens au centre pour faire un bilan de santé et pour savoir ce que je dois faire.
Odaka, village fantôme de Fukushima. Bien qu'accessible depuis avril dernier, la vie n'a toujours pas repris ici. Les services de base, comme la gare, la poste, l'école, restent fermés. Tout ou presque a été laissé en l'état depuis 2 ans.
Nous allons revenir ce matin sur les conséquences de cette catastrophe nucléaire sur les villes nippones. Après la triple catastrophe, le Japon part en guerre contre ses conséquences. Il s'agit d'abord de gérer le nettoyage des éléments radioactifs. Les liquidateurs, à commencer par les employés de la centrale, se sont succédés pour faire face à l'urgence, pour tenter de contenir les fuites radioactives. Ce qui n'a pas manqué de créer de multiples scandales. D'abord sur le plan humain, avec ces affaires de recruteurs arpentant les rues de Sendai, à une centaine de kilomètres de Fukushima, pour embaucher des SDF, les Burakumin, qu'on envoie nettoyer les sites contaminés, mais aussi scandale financier avec ces entreprises chargées officiellement du nettoyage, financées par l'État et qui ont permis à des groupes criminels, les fameux Yakuza, de s'enrichir. Mais l'urgence au départ, c'est d'évacuer la zone de ses habitants. C'est d'abord dans cette zone des 20 km et puis des 30 km, sont des gens qu'il a fallu reloger, beaucoup dans des préfabriqués. Alors que sont devenues justement ces personnes? De quoi et comment vivent-elles aujourd'hui? Comment s'organise leur retour lorsqu'il y a retour? Est-ce que certaines villes retrouvent peu à peu un semblant de vie? Voilà les questions sur lesquelles on se penchera ce matin, puis autre temps, mais catastrophe de même nature. On ira vers Tchernobyl, vers Pripyat plus exactement, une ville de près de 50 000 habitants, à 3 km de la centrale, qui explosa un certain 26 avril 1986. 50 000 habitants à l'époque, maintenant plus de 20 ans après, eh bien, on n'a plus personne qui vit sur place. Et donc un dessinateur, en 2008, s'est rendu justement à Pripyat. Il en a fait le sujet de sa BD, c'est Emmanuel Lepage, on le retrouvera tout à l'heure. Et puis on évoquera également l'abandon de villes centenaires à cause de la guerre, celle entre les séparatistes arméniens et l'Azerbaïdjan dans les années 90, qui a causé la désertification en quelques jours de la ville d'Agdam en Azerbaïdjan. On en parlera tout à l'heure avec Gaïd Zminassian. Mais d'abord, pour cette plongée dans l'univers inquiétant, c'est vrai, des déserts urbains, on a choisi d'inviter ce matin Rémi Scosimaro. Bonjour.
Bonjour.
Rémi Scosimaro, vous êtes en duplex avec nous depuis Toulouse. On va parler avec vous du Japon. Vous êtes maître de conférence à l'université de Jean Jaurès de Toulouse, auteur de nombreux travaux sur cette zone de Fukushima après le désastre. Vous êtes rendu à plusieurs reprises dans cette région. Alors d'abord, un mot sur l'actualité, Rémi Scosimaro. On se souvient que la catastrophe avait engendré l'arrêt total, complet du parc nucléaire nippon. Or, vous avez vu certainement, il y a quelques jours, le gouverneur de la province de Kagoshima a autorisé le redémarrage de 2 réacteurs dans le sud du pays. Alors, comment comprendre cette nouvelle? Est-ce que finalement, c'est le signe que les réalités économiques qui ne sont vraiment pas bonnes au Japon poussent les responsables dans ce sens? Est-ce que c'est aussi peut-être le signe que finalement, l'opposition est de moins en moins tranchée sur cette question? Est-ce que l'opposition antinucléaire se fissure, par exemple? Votre avis là-dessus?
Alors c'est assez intéressant hein, ce redémarrage de la centrale de Sendai, parce que c'est le premier vrai redémarrage d'une centrale nucléaire après les arrêts successifs pendant l'année 2011-2012. Alors, on avait déjà eu deux réacteurs hein, qui avaient redémarré en fait pendant quelques mois en 2012, mais là c'est vraiment la première centrale qui redémarre et qui redémarre avec un processus de redémarrage qui peut être le test en fait hein, pour le redémarrage des autres centrales.
D'accord, donc on se dirige à votre avis vers un redémarrage de l'ensemble du parc nucléaire.
Alors c'est l'objectif du gouvernement, double objectif, d'abord un objectif on va dire politique même pour montrer qu'il est possible de redémarrer les centrales, que finalement Fukushima n'est pas quelque chose qui aurait signé l'arrêt total du nucléaire au Japon, et puis surtout qu'il y a une demande, hein, alors une demande en particulier des groupes électriciens, et puis également au niveau économique, hein, puisqu'on l'a vu, les chiffres de la croissance japonaise sont plombés, et toute la politique d'Abe Shinzo est plombée par le coût hein, des importations en hydrocarbures, en particulier la balance commerciale, et aujourd'hui le Japon a besoin, en tout cas c'est l'argument qui est avancé, d'avoir accès à une énergie moins chère, à disponibilité, alors qu'on a tout un parc de centrales qui coûte cher sans être utilisé.
Oui, bien sûr, le prix de l'électricité, c'est quelque chose qui doit jouer sur l'opinion, parce qu'il a bondi évidemment depuis l'arrêt des centrales. Ça, c'est quelque chose qui doit pousser finalement l'opinion à changer d'avis, non ?
Il a bondi en effet, mais c'est alors moins l'opinion, parce que l'électricité est quand même relativement chère au Japon, c'est plutôt au niveau du secteur économique, hein, c'est-à-dire diminuer les importations d'hydrocarbures qui ont explosé, limiter les effets sur la balance commerciale, limiter essentiellement les effets de l'inflation de yen, hein, puisque l'objectif c'était d'avoir un yen faible, mais non seulement le yen est plus faible, donc les importations coûtent plus cher, et en plus il faut importer plus, donc c'est un des éléments également politiques. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est de voir comment la centrale est redémarrée, parce qu'on s'aperçoit du processus de décision du redémarrage, qui est un processus qui est assez, alors pas vertical, mais surtout qui part de la base, hein, c'est-à-dire la commune. La commune qui héberge la centrale, et c'est d'abord elle qu'il faut convaincre, en particulier le maire de la commune. On convainc le maire, ensuite qui donne son autorisation au gouverneur du département, et c'est une fois que le gouverneur a signé l'autorisation d'exploitation que le gouvernement, ensuite, lui, peut acter du redémarrage de la centrale.
Et évidemment, petite parenthèse, j'imagine que localement, on est intéressé à la réouverture de ces centrales parce que l'activité de l'ensemble de la région dépend très largement. Finalement de ces centrales, non ?
Tout à fait. Hein. Ces centrales ont été installées systématiquement dans des zones excentrées, rurales, pauvres, et c'était un moyen de les développer, un moyen d'attirer de l'activité sur place, avec une manne, ce qu'on pourrait appeler la manne nucléaire, hein, qui va toucher autant les consommateurs qui vont recevoir des réductions sur l'électricité, mais également qui va pouvoir attirer hein, des entreprises qui vont profiter d'une énergie un peu moins chère. Mais par contre, à Sendai, la commune qui héberge la centrale a accepté finalement le redémarrage, mais les communes alentours qui, elles, ne sont pas prises dans le processus décisionnel, commencent à émettre des avis assez partagés et même hostiles au redémarrage de la centrale. Parce qu'on voit bien avec Fukushima que ça ne va pas toucher simplement la commune qui héberge la centrale, mais les 20, 30, 40, même 100 kilomètres aux alentours de la centrale.
Rémi Scocimaro, une fois passée cette actualité chaude immédiate au Japon, on parle ce matin des villes fantômes. Namie, c'est une petite ville japonaise qui, avant la catastrophe, comptait quasiment 20 000 habitants. L'année dernière, son maire, Tamotsu Baba, avait demandé à l'entreprise Google de cartographier les rues de la ville. Donc on pouvait faire, avec quelques clics, une balade un peu macabre dans ces rues désertes où la vie semble vraiment s'être figée. Et il avait déclaré « J'espère que ces vues des rues feront comprendre aux générations futures ce que le tremblement de terre et le désastre nucléaire ont fait ici. » Il poursuivait « Il nous faudra encore de longues années et l'aide de beaucoup de gens pour nous relever de cette catastrophe nucléaire, mais nous n'abandonnerons jamais l'idée de rentrer chez nous, dans nos maisons. » Force est de constater qu'il avait raison, ce maire, parce que les habitants ont gagné justement le droit d'y revenir. Même s'ils n'ont pas le droit d'y dormir, ils peuvent retourner dans cette ville de Namie.
Alors, il y a un droit au retour qui est exprimé par les habitants, par les autorités locales également. Mais c'est aussi un droit et un mythe aussi, parce que à la fois il y a une logique qui est très étrange, c'est-à-dire que dans un premier temps il y a eu des évacuations et le périmètre d'évacuation a plutôt enflé, et puis aujourd'hui on assiste à l'inverse, c'est-à-dire que le périmètre d'évacuation ou les zones d'interdiction se réduisent progressivement, et donc Namie c'est à 5 km, entre 5 et 10 km de Fukushima numéro 1, donc c'est à l'intérieur de la zone des 10 km qui avait été la zone interdite.
Et alors pourquoi est-ce qu'on les autorise à rentrer ? Est-ce que c'est parce qu'on a considéré finalement que le danger lié à la radioactivité était passé sous des seuils, disons, acceptables ?
Alors, le seuil acceptable hein, qui est considéré aujourd'hui, c'est la limite des 20 millisieverts par an. Qui est donc le seuil des travers du nucléaire en France. Hein, et c'est à partir du moment où la zone est en théorie décontaminée et qu'on passe autour des habitations sous ce seuil-là qu'on envisage la déclassification en zone interdite et qu'on autorise du coup les personnes à revenir avec un problème.
Ça c'est très important. C'est seulement ces mesures-là qui permettent en gros de déclassifier une zone, parce qu'en gros il y a plusieurs niveaux d'interdiction, les zones rouges, les zones oranges, les zones vertes, etc., etc. Ce qui permet de passer de la zone rouge à la zone orange, c'est lorsque vraiment les mesures montrent qu'on passe en dessous de ce seuil là, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte?
Alors, c'est essentiellement ces mesures-là qui permettent de passer de vert, qui permettent de transformer la carte qui était orange en vert. Après, il y a les zones rouges, où là, on est encore sur d'autres, sur des taux quand même qui sont assez élevés. Mais l'objectif pour l'instant, c'est de faire passer ces zones orange en vert. Et on déclare qu'on peut passer sur certaines parties de la commune en vert à partir du moment où on passe sous ce critère-là. Avec alors un critère qui est...
Vert, c'est retour normal. C'est retour normal. C'est l'activité, on peut y compris dormir dans son appartement, dans sa maison.
Voilà, c'est ordre d'évacuation levé en vue du retour. C'est-à-dire que c'est des zones où on va autoriser de nouveau les personnes à venir et sans forcément avoir un contrôle. Donc, qui sont appelés à être finalement des zones de retour à la normale.
Mais Namié, par exemple, on est dans quel type de zone?
C'est zone orange, tous les types, à l'est. Alors, paradoxalement, plus on est proche de la centrale, plus on est pour l'instant en zone verte. Une zone qui était rouge jusqu'en mai 2013 a été classifiée en orange. Et puis, en revanche, à l'ouest de la commune, là, on est en zone rouge, hein, rouge et orange, avec des morceaux de la commune, en particulier dans les montagnes, qui là sont à des taux d'exposition qui sont extrêmement, extrêmement élevés. Donc, ouais.
Et quand on passe d'une zone à une autre, est-ce qu'il y a des contrôles, des checkpoints
Alors, il y a des contrôles sur la zone interdite, en particulier celle des 10 km. Après, on a des contrôles un petit peu plus lâches, hein, mais on a des contrôles essentiellement pour éviter l'intrusion. Alors, ce n'est pas tant les habitants qui vont revenir, mais surtout l'intrusion de personnes étrangères hein, qui viennent se servir dans les maisons délabrées. Parce qu'on a une criminalité qui opère en ce moment dans ces zones désertées.
C'est quoi l'activité en journée dans cette ville, par exemple, de Namié, où les gens ont été autorisés à revenir? Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce qu'il y a des transports? Est-ce qu'il y a, par exemple, il y a des écoles? C'est quoi? C'est une vie diurne tout à fait normale?
Alors, pour l'instant, hein, moi, je ne me suis pas rendu à Namié parce que, de toute façon, j'en aurais pas l'autorisation. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Alors, non seulement il n'y a rien, mais en fait, il y a un paradoxe dans ce mythe ou cette entreprise de retour. C'est que plus on décontamine, plus on fabrique des terres, plus on entasse des terres contaminées. Et ces terres-là, il faut trouver un endroit pour les stocker. Et du coup, on va les stocker où? On va quand même les stocker sur une partie de la commune. Donc, le processus de décontamination est aussi un processus qui va à l'encontre du retour parce que s'entasse sur le bord des routes, sur les terrains des écoles, par exemple. Alors, parfois, on les enterre, mais des fois, c'est simplement dans des sacs. Dans les communes qui sont extrêmement contaminées, comme Futaba et Okuma, à proximité de la centrale, on entasse des terres contaminées. Et donc, ça veut dire qu'il y a une présence, en fait, sur une partie de la commune. On en décontamine une, mais on en contamine plus une autre. Et puis, après, la question des mesures, c'est que cette décontamination, elle est partielle parce qu'elle est unique. Les mesures sont faites autour des habitations. On ne sait pas ce qui se passe dans la forêt. Et puis, en plus, c'est une contamination qui est dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque pluie, à chaque ruissellement, eh bien, on a un retour, en fait, hein, de cette contamination. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu infini.
Oui, parce que, effectivement, voilà, à Namié, les gens ont été autorisés à rentrer, mais d'autres villes, d'autres villages n'ont pas la même chance. Et vous avez raison de rappeler, hein, Futaba, Okuma, c'est deux villes qui étaient des villes assez peuplées, en fait. Hein. Okuma, c'était, avant la catastrophe, 11 500 habitants. Et ces villes-là ont été retenues pour stocker ces déchets irradiés. Alors, il y en a d'autres, par contre, qu'on avait aussi choisi pour stocker ces déchets, par exemple Nahara, et où finalement on a changé d'avis. En tout cas, le maire s'est battu et a obtenu de la part des autorités que sa ville soit épargnée.
Oui, en fait, c'est vraiment le combat de ces maires. C'est un combat alors à la fois pour la survie de la commune, parce qu'ils se rendent bien compte que pour Futaba et Okuma, c'est des communes qui vont disparaître. qui vont rester des entités administratives, mais qui vont disparaître en tant que telles. Et en effet, dès qu'on a, si on commence à transformer ces communes un peu contaminées en décharges nucléaires, c'est le début de la fin en quelque sorte. Hein. Mmh. Alors pour le retour sur Namié, hein, il n'est pas encore effectif. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même 70% de la commune qui est encore en zone interdite. Hein.
Oui, mais les gens donc, ont l'autorisation de rentrer en journée.
Voilà, donc voilà, les gens peuvent rentrer, oui, tout à fait. Mmh. Mmh. Et puis alors après, on a aussi sur certaines communes qui sont un petit peu plus loin, comme Kawauchi, des champs où l'on a recommencé à semer du riz et on tente de redémarrer une activité agricole.
Y compris quand on n'a pas forcément l'autorisation, il y a évidemment de grandes figures dont on a beaucoup parlé dans la presse nippone par exemple, Naoto Matsumara, qui est un exemple, une sorte d'ermite entouré de quelques animaux dont il s'occupe chaque jour. Tous les journaux nippons et même internationaux sont intéressés à lui. Voilà, c'est l'exemple d'une figure qui brave cette interdiction et qui a décidé de vivre malgré le danger, quoi, dans ces zones les plus contaminées.
Oui, c'est des résistances. Enfin, c'est des résistances individuelles, mais en effet. Hein. Alors après, il faut savoir que c'est des communes qui sont. Alors, pour le Japon, c'est des petites communes. Hein, 20 000 habitants, c'est vraiment. C'est quand même relativement petit. Et puis, surtout, c'est des populations qui sont très âgées. Les gens qui vont revenir, ça va être essentiellement des gens de plus de 60 ans, éventuellement plus de 50 ans, mais les enfants ne reviendront pas.
Parlons justement de ceux qui ne reviendront pas. Plus de 3 ans maintenant après la catastrophe, que représente la population, le nombre de personnes qui n'ont pas pu rentrer chez eux ?
Alors, on a un chiffre qui est autour des 80 000 personnes pour les déplacés du nucléaire. Mais en fait, on a à la fois un chiffre qui est officiel, c'est-à-dire ceux qui ont évacué, qui sont enregistrés comme étant désévacués lors de l'ordre d'évacuation. Mais en fait, on a aussi toute une population qui a évacué avant. Et qui du coup n'est pas prise en compte dans ce décompte et qui non plus n'est pas prise en compte pour recevoir les indemnités. Mais on a autour quand même, hein, grosso modo, de 80 000, on peut étendre un petit peu 80 000 à 90 000 personnes qui sont évacuées de leur village.
Ils vivent dans des préfabriqués à côté ?
Voilà, voilà. Alors qui ont été réfugiés en deux temps en fait, hein, parce que une partie de la population s'est réfugiée dans les communes alentours, qui ensuite sont devenues des communes interdites. Et donc il y a eu un deuxième départ hein, en fait hein, de réfugiés, essentiellement dans le département de Fukushima, et là qui sont logés donc dans des préfabriqués, alors construits en urgence dans un premier temps, et puis des préfabriqués qui s'installent en fait, hein, qui s'installent avec une installation de cette vie en préfabriqué avec des structures qui se modernisent, qui sont de plus en plus confortables, mais qui mènent une vie parallèle à celle des communes sur lesquelles ils sont installés.
Et des logements de plus en plus confortables, parce que finalement, le souhait de la majorité d'entre eux, c'est de rester sur place, c'est de ne pas rentrer chez eux en tout cas.
Alors bon, ça dépend. Hein. Ce qu'il veut savoir, c'est avoir un accès à l'information. Est-ce qu'il est dangereux ou pas de revenir ou pas, sachant que un problème qui se pose, c'est celui de l'emploi. Parce que ces gens sont réfugiés dans des logements qu'on leur offre, donc pour lesquels ils ne payent pas de loyer. Mais en revanche, ils doivent payer l'électricité, l'eau, etc. Et ils doivent se nourrir. Mais ils n'ont plus aucune activité professionnelle.
D'accord. Et, ils ne travaillent pas pour la majorité.
Voilà, ils ne travaillent
pas. Alors comment ils vivent ? Ils vivent des indemnités ?
Voilà, donc il y a une allocation qui tourne autour des 100 000 yens par personne.
700 euros
par mois. Voilà.
Qu'est-ce qui paye
avec des...
C'est l'État.
Donc là, pour l'instant, c'est TEPCO qui paye sous injonction de l'État. Mais alors, qui paye de façon à minima. Hein. C'est-à-dire que là, les scandales qui surgissent récemment, c'est de même qu'on déclassifie les zones, on va déclassifier aussi les gens. Et on a des personnes qui se voient refuser la poursuite des allocations. Et même TEPCO a demandé à certaines personnes de rembourser leurs allocations.
Et c'est quoi les arguments ?
Alors, il y a deux types d'arguments. Premier argument qui avait été avancé, c'était le mariage. Par exemple, une femme qui s'est mariée après avoir été évacuée. On a considéré que finalement, comme elle s'était mariée, le stress dû à la catastrophe était terminé et que donc on pouvait arrêter de lui fournir son allocation. Plus récemment, donc ça c'était l'année dernière.
Attendez, ça veut dire que ça se fait un petit peu au cas par cas. Ça veut dire qu'il n'y a pas des critères extrêmement précis qui définissent ceux qui ont droit et ceux qui n'ont pas le droit aux indemnités. Enfin, depuis quand le mariage, ça pourrait être considéré comme invalidant ? Enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas là.
En fait, c'est des indemnités, on va dire, de compensation psychologique.
D'accord.
Ça, c'est simplement la personne. Enfin, il faudrait savoir si vraiment il y a une politique officielle de TEPCO qui ordonne à ses employés de limiter au maximum. On peut le supposer. En tout cas, on a des employés qui essayent de limiter, de réduire le nombre de personnes indemnisées. Comme le mariage, finalement, c'est quelque chose qui est plutôt une bonne chose. Donc, il lui est arrivé du bonheur. Elle a rencontré quelqu'un, elle s'est mariée. Donc, finalement, tout va bien. Donc, plus la peine d'indemniser pour la souffrance psychologique. Mmh. Et puis, plus récemment, c'est une étudiante dont les parents habitent la commune qui avait prévu, en fait, en avril 2011, de partir de la commune pour aller étudier à Tokyo. Et donc, on a considéré, enfin, TEPCO a considéré que, comme le départ était déjà envisagé, finalement, elle ne s'est pas déplacée, elle n'a pas quitté la commune du fait de la catastrophe, mais parce que c'était quelque chose qui était déjà planifié. Et donc, elle avait indûment droit aux indemnités. Et du coup, on lui demande de rembourser.
Mmh. Est-ce que c'est...
Voilà, donc c'est un peu cette situation auxquelles sont confrontés ces gens-là. Et puis, l'autre situation qui est un petit peu difficile à vivre pour eux, ils sont hébergés dans des communes qui ne sont pas les leurs, dans des terrains qui sont donnés gratuitement et par les autorités publiques, hein, sont des terrains publics. Ils ne travaillent pas. Ils ont quand même des indemnités. Et c'est vrai qu'ils sont... ce qui se dit, c'est que finalement, ils utilisent leur argent pour aller au pachinko, pour s'amuser ou pour boire. Et que finalement, c'est un petit peu des gens qui ont une vie oisive, qui se plaignent, mais qui finalement ne sont pas tant à plaindre. D'autant plus que les communes dans lesquelles ils ont été, ils sont hébergés, sont des communes pauvres. Hein. Fukushima, c'est quand même un département qui est relativement pauvre.
Vous parliez de terrain à l'instant. Il y a des agriculteurs qui possédaient, qui travaillaient leurs propres terres. Est-ce qu'ils ont également touché des indemnités pour ces terres ?
Je dis franchement, je ne sais pas s'il y a vraiment des indemnités précises sur les terrains. Pour l'instant, c'est plutôt les indemnités liées à la gêne causée par l'obligation d'évacuer.
Vous le disiez, hein, il y a donc effectivement ces personnes dont on dit finalement qu'elles sont pas si mal loties, puisqu'elles touchent des indemnités, puisqu'elles passent leur temps à boire. Et d'ailleurs, ce problème de l'alcoolisme ainsi que l'augmentation des taux de suicide, c'est un des arguments qui est régulièrement mis en avant par les autorités pour justement pousser à ce retour. Est-ce que ces personnes qui vivent maintenant loin de chez eux ne se disent pas, dans donc, cette préfecture de Fukushima, est-ce qu'elles ne sont pas tentées d'en partir, tout simplement, de déménager ? Oublions le retour à la maison, finalement, quittons tout simplement, purement et simplement, la région.
Tout à fait. Hein. D'ailleurs, entre 2010 et 2012, le département a perdu 67 000 habitants. C'est le département qui est le plus évidé du Japon aujourd'hui. Et à la différence, par exemple, des départements du tsunami, hein, comme la région de Sendai au nord, qui regagne des habitants. Donc on a un retour, finalement, hein, après l'évacuation à Fukushima. La crise se poursuit. Hein. Et en fait, dans ces préfabriqués, tous ceux qui peuvent partir et refaire leur vie ailleurs le font. Donc on a des gens qui partent, en particulier les jeunes, et qui vont vivre leur vie ailleurs, en particulier dans l'ouest du Japon. Et puis on a certains agriculteurs qui, eux, mais qui étaient aussi peut-être ceux qui étaient les moins attachés au sol, qui n'étaient pas forcément originaires de la commune ou des communes qui ont été évacuées, qui, eux, tentent de racheter des terres dans l'ouest du Japon, parce qu'il y a beaucoup de terres agricoles qui sont disponibles à l'ouest du Japon et qui migrent. Hein. Donc, en fait, ceux qui restent, c'est aussi ceux qui n'ont pas les moyens financiers ni les opportunités professionnelles pour pouvoir refaire leur vie ailleurs. Hein. Donc, on va avoir des populations âgées, parfois qui sont assez peu mobiles, qui sont aussi pas forcément très, très formés au niveau des qualifications et qui sont quand même plutôt coincés sur place. Et c'est vrai que plutôt que les laisser dans les préfabriqués, on peut se demander, même cyniquement, est-ce qu'il vaudrait pas mieux les autoriser à revenir sur place, parce que finalement, même d'un point de vue sanitaire, ce serait peut-être plus intéressant, sachant qu'on a... on a une centaine de morts tous les 6 mois parmi ces populations. Hein. Mmh. Et qu'aujourd'hui, le nombre de morts liés à l'évacuation, aux conséquences de l'évacuation, est supérieur à celui du tsunami pour le département de Fukushima.
On est avec vous, Rémi Scocimaro, depuis Toulouse en duplex, géographe, maître de conférence à l'université de Jean Jaurès de Toulouse. Et on parle de ces villes fantômes du côté du Japon, villes fantômes, parce que, bien sûr, cette catastrophe nucléaire il y a 3 ans maintenant.
らなくなる現実。昨日まで一緒だった大事な人も離れ離れバラバラの避難所。食料燃料小競り合う人々、血走る目から悲しみの涙。皆が思った神様なんで、いなくなった家族を今すぐ返せ。目を見開いて現実を見ろ、捨てちゃいけねえさ小さな希望。忘れるなあの日や時の痛み、消えることのない悲しみや怒り、探しに行くんだ埋もれた光。苦難を乗り越え笑える未来、深まる絆、願いはいつか叶うはずだから、諦めず Stand up Look up to the sky、 夜が明ける限り未来は俺らの手の中だから。次々爆破する第一原発。
Oudrats, un DJ japonais de Fukushima, on pourrait traduire ce titre par Don't Forget. Fukushima, justement, Fukushima Ville, Fukushima Shi, Rémi Scosimaro, la capitale de la préfecture. On est à une soixantaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. La population, c'est quasiment 300 000 habitants, c'est 280 000 habitants. Comment se passe la vie, justement, sur place ? Est-ce que finalement rien n'a changé ? Oui, bien sûr, la radioactivité est là, un peu partout, dans l'air, dans l'eau, dans la terre, mais c'est quelque chose qu'on oublie, en tout cas qu'on essaye d'oublier à Fukushima Ville.
Alors, je crois qu'on n'essaye pas d'oublier, on est forcé d'oublier. Hein, parce que, en effet, quand on est dans des grandes agglomérations comme celle de Fukushima, plus au sud, on a Koriyama, qui sont en effet des villes de 200, 300 000 habitants, qui n'ont pas été évacuées, qui sont pourtant sur des taux de radioactivité ou d'exposition qui sont autour des 17 à 20 millisieverts par an. Donc, c'est quand même des taux qui sont assez importants. Mais l'expérience personnelle même qu'on peut en avoir lorsqu'on se rend dans ce département, c'est que, en effet, il y a une pollution qui est ambiante et qui est invisible. On est tenté de, pendant 2-3 jours de faire des tests, et puis on a un stress hein, vis-à-vis de cette pollution-là, même si ce n'est pas 2-3 jours sur place qui vont être décisifs. Mais on ne supporte pas en fait hein, cette pression, on ne la supporte pas plus de 2-3-4 jours, et au bout d'une semaine, on oublie et on vit normalement. Hein, cette tentation de la normalité est quelque chose qui est assez irrépressible. Donc aujourd'hui, en effet...
C'est une tentation de la normalité, c'est une vraie normalité, ou est-ce que finalement ça cache autre chose ? Est-ce que les habitants de Fukushima-shi vont avoir la même vie que les autres Japonais qui vivent dans les autres centres urbains comparables ?
Bon alors, bon, c'est dur de faire des généralités hein, sur toutes les populations, etc. Mais on ne peut pas vivre en consommant de l'eau, des produits locaux, en se promenant, même en se déplaçant dans les villes, si on garde à l'idée qu'on est dans un territoire qui est dangereux. D'autant plus que cette dangerosité n'est pas immédiate. Donc, sur le point de vue de la vie quotidienne, on a une angoisse quand même, hein, qui ne se révèle pas tout de suite, mais qui habite les personnes, mais ça ne se voit pas. Ça se voit pas, et même bizarrement, ça se voit de moins en moins. Si on prend le cas de la ville de Aizu, hein, que moi je connais un petit peu plus, qui est la vraie capitale historique du département de Fukushima, en 2011, on avait quand même, qui est pas hyper contaminée, hein, mais en 2011, on avait quand même une ambiance qui est très lourde, vraiment très lourde sur place, avec beaucoup de non-dits et quand même beaucoup d'angoisse, même sur le fait d'aller dans un restaurant, par exemple. Hein. Est-ce que le fait d'aller dans un restaurant, et les Japonais vont quand même assez souvent dans des restaurants ou dans des établissements extérieurs, est-ce qu'on va acheter de la viande, par exemple, chez le boucher, sachant qu'on achète de la viande de Fukushima, donc éventuellement, elle va être contaminée. Il y avait quand même cette sorte d'ambiance, un petit peu de suspicion sur tout.
Du coup, on n'en consomme pas et du coup, les restaurants ferment. Enfin, je caricature, mais c'est ça qui se passe.
Et en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand on est dans le département, on se sent aussi concerné. Il y a une sorte de solidarité assez naturelle vis-à-vis des agriculteurs locaux, dont on sait que leur production ne se vend plus, simplement parce qu'il y a écrit Fukushima dessus. Et donc, inversement, il y a une sorte de solidarité interne qui fait qu'on va plutôt consommer des produits locaux pour les aider, même si on prend sa part de radioactivité. Et c'est plutôt ce sentiment-là de solidarité humaine en fait qui va primer sur l'intérêt individuel ou la protection individuelle, sachant que cette protection n'est pas possible à moins de partir et de déménager de toute cette région.
Mais justement, parce c'est ce que vous dire. Est-ce qu'on est solidaire jusqu'au bout ? Est-ce qu'il y en a pas qui sont tentés quand même de partir ?
Pas tant. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que... les jeunes, surtout, partent. Ceux qui sont sur place, ils se sentent liés. Ils sont liés, hein. Ils sont liés, au destin de leur... Enfin, c'est un destin commun, hein, pour ces habitants-là. Et puis, alors, il faudrait peut-être rajouter un aspect un peu particulier du département de Fukushima, qui est... bon, c'est pas si anecdotique que ça, mais c'est le dernier département, le dernier fief qui a lutté contre la restauration impériale à Meiji en 1868, et qui garde l'idée qu'il a été puni parce qu'il n'a pas suivi le nouveau gouvernement de Meiji. Et donc, on a une société qui est aussi très solidaire, avec une identité très forte, et puis un fief qui était très militarisé. Et donc, un comportement très militarisé, des valeurs qui sont extrêmement martiales. Et l'idée qu'on fuit face au danger, vis-à-vis de la communauté locale, c'est quelque chose qui n'est pas très bien vu. Et au contraire, ce qui est valorisé, c'est le fait d'être solidaire, de prendre sa part de responsabilité, même si on doit en subir les conséquences. Alors après, il y a un autre problème qui est plus concret, et qui est la vraie angoisse qui ressort lors des interviews, c'est l'avenir des filles.
Pourquoi elles sont plus concernées que les garçons ?
Alors, parce que le doute sur la fertilité, sur les malformations, sur toutes ces maladies, il est porté sur les filles. Et on peut le voir, par exemple, avec la question des problèmes de fertilité de la princesse Masako, dont on a dit que c'était elle qui était responsable, finalement, des problèmes de fertilité du couple princier. On n'a jamais évoqué la possibilité que le prince puisse aussi avoir quelques problèmes. Donc, ça montre bien quelle est la focalisation sur la fille. Et puis... ces filles-là, donc hors de Fukushima, c'est elles qui vont être que l'on va soupçonner, on va avoir une inquiétude sur de possibles maladies liées à la radioactivité.
Donc une vraie forme de discrimination, et en particulier pour les filles. On comprend très bien, Rémi Scocimero. On parle ce matin des villes fantômes dans Culture Monde. Vous écoutez Culture Monde, il est 11h passé de 31 minutes.
France Culture, Culture Monde,
Florian Delorme.
On va poursuivre notre discussion autour de ces villes fantômes et on va quitter pour un temps le Japon. On va prendre la direction de l'Ukraine, direction Pripyat.
La centrale de Tchernobyl n'est vraiment pas loin de la ville. À 3 km à peine. Combien y avait-il d'habitants dans cette ville ? 50 000. On a déjà vu des villes anciennes abandonnées d'où les gens sont partis. Mais celle-ci, elle est vraiment étrange. C'est une ville moderne, totalement inhabitée. Elle n'a pas l'air dangereuse. Ce n'est qu'en voyant le dosimètre qu'on comprend pourquoi la ville a été désertée. La radiation, ça n'a pas de goût, pas d'odeur. On ne la voit pas, on ne la sent pas. La ville a été évacuée le surlendemain de l'accident.
Et personne n'est jamais revenu.
Jamais.
Extrait d'un documentaire qui avait été diffusé sur Planète, Pripyat, donc au nord de l'Ukraine, à quelques 3 km de cette centrale nucléaire de Tchernobyl, donc dans la zone d'exclusion des 30 km, mis en place après la catastrophe le 26 avril 1986. À l'époque, la ville abrite 50 000 personnes. Aujourd'hui, Pripyat, c'est devenu une véritable ville fantôme, mais une ville fantôme qu'on peut visiter. Bonjour Emmanuel Lepage.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes scénariste, vous êtes dessinateur et auteur, entre autres, d'Un printemps à Tchernobyl, qui est paru en 2012 dans éditions Futuropolis. Vous aviez 19 ans quand survint cette catastrophe de Tchernobyl, et c'est un peu plus de 20 ans plus tard que vous êtes rendu sur place. Vous êtes notamment rendu justement à Pripyat, hein, ce qui correspond à la première journée dans la zone interdite dans la BD que vous avez dessinée. Vous êtes resté une quinzaine de jours sur place. Vous avez rapporté donc cette BD avec cette atmosphère très inquiétante, très brumeuse, quasiment lugubre. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre sur place? Finalement, cette ville, c'est d'abord et avant tout, j'allais dire, allez, les scientifiques et peut-être les journalistes qu'elle devrait intéresser. Pourquoi est-ce que le dessinateur que vous êtes a décidé de se rendre sur place?
J'ai fait partie tout simplement d'une résidence d'artistes là-bas, en se disant tout simplement, est-ce que Tchernobyl est seulement réservé aux scientifiques et aux journalistes, et pourquoi pas aux artistes? Et l'idée de cette résidence, c'était de témoigner de la vie, comme ça, à proximité d'une zone interdite, donc qui est assez vaste, hein, puisque la zone interdite autour de Tchernobyl représente à peu près la taille du Luxembourg. Et nous sommes partis là-bas, donc, pour témoigner et raconter aussi ce que nous avons vécu, comme ça, à la fois en vivant à proximité de la zone interdite, mais aussi en ayant l'occasion, à plusieurs reprises, de nous rendre dans la zone interdite, et en particulier dans la ville de Pripyat.
Alors évidemment, pour se rendre dans cette ville de Pripyat, il faut une autorisation, il faut passer des contrôles, vous demandez une autorisation qui vous est fournie par une agence de voyage de Kiev qui est spécialisée dans ce genre de visite. Vous êtes bien sûr encadré, il faut respecter un temps de visite, ne pas dépasser un certain temps. Votre première impression quand vous arrivez à Pripyat, quand vous arrivez sur place, qu'est-ce qui vous surprend, qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce que vous ne vous attendiez pas à voir?
Alors, vous savez, la ville de Pripyat est une ville très étonnante parce que nous sommes, quand on arrive à Pripyat, on est dans la science-fiction. C'est une ville qui a été complètement abandonnée deux jours après l'accident, qui est restée en l'état, c'est-à-dire les gens sont partis en laissant tout et sans avoir la possibilité de revenir. Et ce qui va frapper, c'est la modernité des lieux. Moi, ce qui va vraiment me frapper, c'est la modernité des lieux. Pripyat était une ville nouvelle, elle datait de 1970. Elle avait tout ce qu'on pouvait rêver en Union soviétique à l'époque. Elle avait des logements confortables, elle avait des théâtres, des piscines, des cinémas, des jardins d'enfants. Donc, et surtout, une fête foraine. Ce qui va nous frapper en arrivant à Tchernobyl, ça va être cette fête foraine qui est au cœur de la ville, qui n'a pas fonctionné puisqu'elle devait être inaugurée le 1er mai 1986, soit 4 jours après la catastrophe. Donc oui. Ça, ce qui va nous frapper vraiment, c'est d'abord la modernité des lieux. Parce que
nous, on avait plutôt une image de cet endroit-là comme une ville finalement assez vétuste, une vieille ville soviétique, j'allais dire. Et en fait, pas du tout. Il y a salle de spectacle, il y a la piscine olympique, il y a des théâtres, des cinémas. Il y a aussi, comme vous le dites, ces autotamponneuses, cette grande roue, donc ce côté un peu festif de la chose. Donc c'est une image très différente par rapport à ce que vous voyez sur place. Il y a aussi des personnes, Emmanuel Lepage, qui ont décidé de faire fi du danger et de revenir sur place dans les villages pour vivre, ce qu'on appelle les samiosols.
C'est ça, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas à proprement parler dans la ville de Pripyat que les gens vont s'installer.
C'est dans les petits villages, aux alentours.
C'est un espace interdit dans la zone interdite. C'est plutôt des gens, souvent des personnes âgées d'abord, dans un premier temps, comme disait M. Scocimaro tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vont faire ces gens qui ont toujours vécu là ailleurs? C'est-à-dire qu'on va leur proposer évidemment des logements à Kiev ou dans d'autres grandes villes, mais ils n'ont plus aucun repère. Donc ces personnes âgées vont revenir dans leur village, qui évidemment sont des villages morts, abandonnés, et vont vivre en totale autarcie pendant jusqu'à leur mort, estimant que à leur âge, ils n'ont plus grand risque pour vivre là-bas. Donc ce n'est pas vraiment revenir dans leur village, puisque leur village n'existe plus dans l'état dans lequel ils l'ont connu, mais tout simplement parce qu'ils n'ont nulle part d'autre où aller, ils ne se sentent pas bien ailleurs. Mais c'est aussi le cas des gens qui vivent à proximité de la zone interdite. Nous étions dans un village donc à l'extérieur de la zone, un tout petit village de 300 habitants aujourd'hui, mais dont plus du tiers des maisons étaient abandonnées. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient les moyens de partir sont partis. Ne reste là finalement que les gens qui n'ont nulle part où aller. C'est-à-dire que c'est aussi un effondrement, parce qu'on pense évidemment, lorsqu'on pense accident nucléaire, les gens contaminés, les gens irradiés, mais c'est aussi tous ces gens qui se retrouvent dans un état sanitaire, un désœuvrement qui est des plus complets.
Emmanuel Lepage, vous êtes allé ensuite du côté de Fukushima. Vous avez ressenti la même chose que ce que vous avez vécu du côté de Tchernobyl, du côté de Pripyat?
J'ai eu un sentiment de colère, en fait, pour tout vous dire. En allant effectivement à Fukushima, ce qui m'a troublé, c'est de voir pour la deuxième fois une zone interdite avec les mêmes témoignages, les mêmes drames, la même incompréhension. Les gens ont besoin de savoir ce qui se passe. Or, ils sont souvent maintenus dans l'ignorance, dans un état de stress et d'angoisse qui est terrible, et surtout sans savoir s'ils vont pouvoir revenir un jour. Moi, je me souviens d'avoir rencontré un monsieur qui, comme il était dit tout à l'heure, pouvait revenir à la journée chez lui de temps en temps pour entretenir sa maison, voir s'il n'a pas été abîmé, pillé. Et cette personne me disait, mais qu'on me dise si je peux revenir un jour chez moi ou pas. Si je ne peux pas, j'irai construire ma vie ailleurs. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Et c'est ça qui est assez terrible, c'est cette ignorance. On ne sait pas, en fait. Vous savez, gérer le nucléaire, c'est comme labourer la mer, en fait. À Fukushima, on met la terre dans des sacs poubelles. Ça fait des montagnes de sacs poubelles de terre contaminées dont on ne sait que faire.
Rémy Scocimaro, je voudrais vous faire réagir peut-être. Est-ce que vous pensez que dans ces villes fantômes dont on parlait tout à l'heure, du Japon, on viendra, comme l'a fait Emmanuel Lepage du côté de Pripyat, pour dessiner, rendre compte via une BD de ce qui se passe là-bas, ou plutôt de ce qui ne se passe plus, puisque la vie s'est arrêtée, Rémy Scocimaro?
Alors, il y a des auteurs japonais qui commencent à dessiner sur l'accident, sur en effet cette demi-vie, pour reprendre l'expression de Michael Ferrier, cette demi-vie de ces personnes-là qui en effet ne savent pas si elles pourront ou pas revenir. Elles savent bien que ce ne sera pas aussi simple. Il y a peut-être une angoisse aussi du gouvernement, même de TEPCO, parce qu'il faudrait assumer le fait que les zones sont irrémédiablement condamnées, de dire non, vous ne reviendrez jamais. Donc c'est pour ça qu'on peut parler du mythe du retour, parce que c'est quelque chose qui se fait par petits bouts. Donc, il y a aussi le fait d'aller récupérer les tombes, d'aller le 15 août, l'équivalent de la Toussaint, d'aller pouvoir aller sur place, prier les morts et les tombes qui sont restées sur place. Elles n'ont pas été déménagées.
Vous restez avec nous. Vous restez avec nous, Rémy Scocimaro, pour la fin de cette émission. En tout cas, un grand merci à Emmanuel Lepage d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle votre BD parue chez Futuropolis en 2012, Un printemps à Tchernobyl. Vraiment une BD que je conseille. Merci beaucoup, Emmanuel Lepage. On va prendre la direction de l'Azerbaïdjan. Juillet 93, les forces armées arméniennes envahissent la région d'Agdam dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh. Et puis, à l'époque, c'est une ville qui compte quand même un certain nombre d'habitants, presque 30 000 habitants, en tout cas dans l'ensemble de la région, dans l'ensemble du district. Mais cette intervention armée va pousser les populations à quitter l'ensemble de la région. C'est donc plus de 100 000 Azerbaïdjanais qui sont déplacés.
Moi, je suis né à Agdam, en 1993.
Est-ce que tu te souviens d'avoir dû quitter le Haut-Karabakh? Est-ce que quelqu'un ici se souvient du Haut-Karabakh? Non. Non, personne n'en a aucun souvenir. Tous les enfants qu'on voit ont grandi ici. Et maintenant, nous sommes arrivés à Chouchi. Et ici, qu'est-ce qu'il s'est passé alors? Où sont les gens qui vivaient ici?
En fait, les habitants de Chouchi ont quitté la ville avant qu'elle ne soit prise par les forces armées du Haut-Karabakh. Sur place, il n'y avait plus que des militaires. Alors aucun civil de Chouchi n'a été blessé parce que l'armée du Haut-Karabakh a ouvert un corridor humanitaire pour eux et ils sont partis jusqu'à la Chine et de la Chine jusqu'à Bakou.
Certains observateurs internationaux ont cependant constaté que les autorités du Karabakh ont détruit délibérément des villages azéris pour empêcher les populations d'y retourner et de s'y réinstaller.
Chouchi, Agdam, deux villes évacuées par l'armée arménienne. Aujourd'hui, cette ville d'Agdam, à l'ouest de la capitale Bakou, c'est devenu une véritable ville fantôme, à tel point d'ailleurs qu'il est extrêmement difficile de la trouver sur la carte, voire impossible même. Bonjour Gaïd Minassian.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et puis par ailleurs chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes un spécialiste de l'Arménie. Vous êtes rendu plusieurs fois à Agdam et notamment en août 93, justement, un mois après l'évacuation de la ville. J'imagine, on parlait de vision à l'instant avec Emmanuel Lepage, j'imagine que la vision de cette ville totalement vide devait être saisissante, non, Gaïd Minassian?
Totalement, vous imaginez. Je veux dire, je viens de Paris, j'arrive dans ce conflit qui ressemble au conflit post-yougoslave, donc vous imaginez la haine entre les deux peuples. Et bien, quand on se retrouve dans une ville de 40 000 habitants, plus l'agglomération, ça fait environ 100, 150 000, on a une impression d'apocalypse, on a l'impression je veux pas dire de fin du monde, mais de quasiment de fin d'un monde, et on se retrouve au milieu et c'est terrible, c'est saisissant effectivement.
Et ce qui est incroyable, Gaïd Minassian, dans ce cas précis, c'est qu'aujourd'hui la ville s'est quasiment totalement effacée, c'est-à-dire que tout a été volé dans cet endroit, les portes, les fenêtres, les pierres, les murs, la ville a été totalement dépecée et il en reste quasiment rien.
Et oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Agdam était, qui veut dire Maison Blanche ou forteresse, Agdam était le quartier général des forces d'Azerbaïdjan dans la guerre du Karabakh. Et pendant à peu près 4 ans, les forces azerbaïdjanaises ont bombardé au quotidien, ont pilonné les villages arméniens et la capitale, c'était Panagert. Et de l'autre côté, vous aviez le bastion azéri à l'intérieur du Karabakh, qui était à Chouchi, qui, de son côté, bombardait, pilonnait Stepanakert. Donc Stepanakert a été détruit par des bombardements de chaque côté. En 92, Chouchi est tombé, comme vous l'avez dit, fort justement, et en 93, c'est Tardam qui tombe. Et les Arméniens, qui, en mon avis, en avaient marre de prendre des bombes, sont allés sur Ardam et ont pillé la ville, comme toute guerre classique, etc.
Ils l'ont pillé, ils l'ont évacué dans une relative, je dis bien, relative sérénité. Il n'y a pas eu, en tout cas, de massacre de ce qu'on sait, Gaïd Mination.
Non, il n'y a pas eu de massacre, pas du tout. D'abord, c'était impossible parce que qui dit massacre dit forcément encerclement, et là c'était impossible parce que derrière Ardam, bah, c'est la suite de l'Azerbaïdjan, donc c'est pas le problème. Donc ils sont partis par là-bas, les populations civiles. Deuxièmement, Agdam était une ville assez développée. Là-bas, quand on y est, il y avait des maisons, plein de maisons, des résidences secondaires. Ça devait être sympa d'y vivre, je pense. Et puis quand vous rentriez dans le Karabakh, alors là, c'était le sous-développement total, pas d'asphalte, les maisons pourries, etc., etc. Donc on sentait là quand même une discrimination de la part de l'Azerbaïdjan soviétique et post-soviétique dans le fait de vouloir garder dans un état de sous-développer la région autonome du Karabakh et de maintenir une forme de développement attractif donc pour les populations majoritairement azerbaïdjanaises autour.
Où vivent les personnes aujourd'hui, Gaïd Mination, qui ont été évacuées? À Bakou, à la capitale?
Un peu dispersées un peu partout. Mmh. Alors là, dans des camps de réfugiés, replacés dans des appartements. Mais le pouvoir azerbaïdjanais a une politique un peu ambiguë, c'est que d'un côté, il doit venir en aide à sa population civile, et de l'autre, il veut les conserver dans un maximum de précarité pour que ces populations puissent retourner un jour dans ces villes fantômes. Ouais. Et effectivement,
voilà. On y croit vraiment, le retour?
Je sais pas, je pense que laisser partager, je veux dire, il y a des gens qui...
Parce que là, il y a tout à refaire, hein, parce que pour avoir regardé, d'abord j'ai mis un temps fou à le retrouver, j'ai essayé de regarder sur Google View, si j'arrivais à trouver. D'abord j'ai mis un temps fou, et comme je savais que c'était à côté de Sushi, j'ai finalement retrouvé, mais il n'y a plus rien, enfin véritablement c'est effacé.
Oui, c'est ça, c'est effacé.
Il y a encore quelques petites traces, ça et là, on voit, il y a des restes de route, mais il n'y a plus rien, quoi.
Exact. Il n'y a plus rien, il y a sauf les mosquées. Les Arméniens, quand ils ont pris la ville, ils n'ont pas touché aux mosquées. Voilà.
Gaïd Mination, tout dernier mot. Normalement, il y a un cessez-le-feu depuis 1994, mais la situation est tendue, très tendue. Il y a régulièrement des heurts aux abords de la ligne de front. En août dernier, il y a eu 4 soldats azerbaïdjanais, un soldat arménien qui ont été tués lors d'un accrochage. Le 12 novembre dernier, donc il y a vraiment quelques jours, il y a un hélicoptère arménien qui a été abattu par l'armée azerbaïdjanaise. On est quand même très loin d'une pacification. Enfin, il n'y a pas de perspective de résolution entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
pour cette question. Pour l'instant, non. Et au mois d'août, ce n'était pas 4 morts, c'était 20 morts. Et essentiellement du côté azerbaïdjanais. Non, il n'y a pas de perspective.
Quatre soldats, je disais, mais effectivement, il y a eu aussi des civils.
Non.
Ah bon ?
C'était que des soldats, mais c'était un affrontement entre militaires, et il y a eu une vingtaine de morts du côté azerbaïdjanais. Mmh. D'ailleurs, je pense que l'affaire de l'hélicoptère est une forme de
représailles.
De représailles, où c'est pas passé l'affaire du mois d'août, et donc on essaye de rattraper. Alors dans le cadre des négociations, mais oui, ça ne donne rien pour l'instant de concret. Ça fait
qu'est-ce qui bloque ?
En fait, ce qui bloque, c'est plusieurs points. D'abord, la question du statut. Quel statut accorder au Karabakh ? Les Arméniens du Karabakh réclament leur indépendance. L'Azerbaïdjan refuse. On est dans le type de conflit un peu au Ossétie du Sud, Kosovo, Abkhazie, voilà, un peu dans ce style-là. Deuxièmement, ce qui bloque, c'est la bonne volonté des deux parties. Est-ce qu'on est prêt à se faire confiance ou pas? Il n'y a aucune confiance. Hein. Je veux dire, avec l'affaire de l'hélicoptère, ça va encore plus être visible dans le cadre des discussions. Ce qui bloque, c'est la haine entre les deux peuples. Ce qui bloque, c'est que d'un côté, vous avez un régime autoritaire, voire dictatorial, qui est l'Azerbaïdjan, et de l'autre côté, vous avez un régime qui essaye de donner des semblants de démocratie, mais qui s'en sort mieux sur le plan de la démocratie que l'Azerbaïdjan. Quand vous démocratisez des régimes, forcément, vous arrivez à mieux discuter, à mieux trouver un compromis, et ce n'est pas le cas, parce que l'Azerbaïdjan bloque systématiquement les négociations en cherchant à gagner du temps, en se disant on est fort du pétrole et du gaz, donc on attend. L'Arménie, elle bloque parce qu'elle se dit moi je dis oui à la paix, mais comme l'Azerbaïdjan dit non, on n'avance pas, et tant mieux. Et donc elle joue aussi la carte du temps. Enfin, l'Azerbaïdjan compte sur le fait que l'Arménie se vide et se dise un jour ils vont plier, et l'Azerbaïdjan se dit ça, et l'Arménie se dit un jour ou l'autre Aliyev va rencontrer un mouvement de contestation, et forcément ça va jouer contre lui. Donc on joue sur les deux, et
on est loin de la résolution. En tout cas, on essaiera peut-être d'évoquer à nouveau ce dossier qui est un dossier extrêmement complexe. Gaïd Zmination, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et puis un grand merci à Rémi Scocimaro qui est avec nous en duplex. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire la liaison. Je rappelle Rémi Scocimaro, géographe, maître de conf à l'Université de Jean Jaurès de Toulouse, auteur de nombreux travaux qu'on peut retrouver sur Internet sur cette zone de Fukushima après le désastre. Un grand merci à vous en tout cas.